Vous intervenez au 01 45 24 7000. François nous appelle. Alors, je ne sais pas d'où précisément. Il a mis sur la fiche, je lis Occitanie. Bonjour, François.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous?
Oui, je suis à Toulouse.
À Toulouse, voilà. Dans l'ancienne Occitanie. Alors, que voulez-vous nous dire?
Oui, en ce qui concerne Michel Rocard, donc il y avait effectivement des sympathies pour les mouvements identitaires, ça c'est positif, mais enfin qui en fin de vie bon a dit qu'il fallait arrêter la bombe atomique, alors que c'est quand même quelqu'un qui est du sérail du nucléaire, il serait quand même qu'on applique le parler vrai à sa carrière politique, parce que bon, le socialisme de dissimulation n'a pas lieu de tenir disons de réalité politique.
Qu'est-ce que vous appelez le socialisme de dissimulation, François?
Eh bien, c'est-à-dire que les véritables options du Parti Socialiste sont dissimulées aux Français.
Ouais,
exemple, depuis le 10 mai 1981, cette classe politique se disant socialiste est en guerre contre le Proche-Orient. Et ça, bon, je veux dire que beaucoup d'électeurs, en particulier des électeurs jeunes qui ont voté le 10 mai 1981 pour M. Mitterrand, n'ont pas vu cela.
Merci François pour cet appel. Jacques Julliard, vous êtes en ligne avec nous. On voit que Michel Rocard continue de susciter des réactions, contrastées à gauche et chez les électeurs de gauche.
Tant mieux. Je dirais tant mieux, parce que je suis un peu gêné par cette unanimité de façade, de convention qu'on trouve dans presque toute la classe politique. Si on avait renoncé, je reprends l'expression de notre interlocuteur, à la politique de dissimulation, et ça c'était le véritable message de Rocard, on n'en serait peut-être pas là où nous en sommes. Il n'y aurait pas cette crise entre la société politique et la société tout court telle que nous la vivons aujourd'hui. Alors je crois effectivement que Rocard, de ce point de vue-là, représente une exception. Alors monsieur faisait remarquer que en ce qui concerne le nucléaire, il a changé. Moi, je peux vous dire qu'il n'a pas changé. D'un bout à l'autre de sa carrière, il était hostile au nucléaire. Alors, avait-il les moyens de le supprimer, en quelque sorte, quand il était Premier ministre? Je pense que non, parce que c'est une confidence qu'il m'avait faite une fois, un jour où j'allais le voir et où je trouvais qu'il n'en faisait pas assez à Matignon. Il m'a dit, écoute, tu me feras ces critiques quand je serai au pouvoir. Eh bien, et par là même, il montrait toute l'ambiguïté de la Ve République. Mais je crois que s'il y a un message à retirer de Rocard, c'est bien le primat de la vérité tout court, sur ses vérités à soi. Parce que tous les hommes politiques ont leur vérité. Mais la recherche de la vérité, c'est très rare. Et je fais hommage à Rocard d'avoir été un des rares à essayer de poursuivre cela.
Thierry Pech, directeur de Terra Nova.
Moi, je crois qu'il y a une unanimité morale autour de Michel Rocard. Et il n'est pas souhaitable qu'il y ait une autre forme d'unanimité. Pour les raisons que Jacques Julliard a dites, Michel Rocard avait le respect, y compris de ses adversaires. Peu d'hommes politiques sont capables de dire la même chose. Bon. Mais après, quand on regarde de près ce qu'étaient les idées du rocardisme, elles ne font pas l'unanimité, elles ne feront pas l'unanimité. On parlait de démocratie sociale, quand je regarde les programmes de droite, des aspirants à la victoire aux primaires de droite.
Tu parles de suppression des corps intermédiaires.
Ce que je vois, c'est le retour d'un volontarisme d'État omnipotent qui est un véritable fantasme et qui va se fracasser sur le mur de la réalité. Et donc, vous voyez bien, les idées du rocardisme ne font pas l'unanimité. Mais la personne de Michel Rocard fait l'unanimité comme autorité morale. Et ça, c'est extrêmement précieux.
D'où mes questions tout à l'heure sur ces victoires, ces triomphes intellectuels qui semblent parfois, pour certains, en débandade dans la France politique d'aujourd'hui, Thierry Pech.
Mais écoutez, le triomphe intellectuel, comme vous dites, ne suppose pas de mettre tout le monde d'accord. Ce que ça suppose, c'est que vos idées restent vivantes et pertinentes. Et que les gens avec qui, aux côtés de qui vous vous êtes battus, en conviennent et les reprennent. Mais ça ne veut pas dire toute la classe politique.
Laurent nous appelle de Metz. Bonjour Laurent.
Bonjour Patrick, bonjour messieurs, spécialement à monsieur Chérec qui a été un de mes formateurs au Centre de coopération universitaire, économique et sociale à Nancy il y a 15 ans.
Alors, il nous écoute et on va le retrouver dans quelques minutes. Je vous en prie, Laurent, nous vous écoutons.
Donc, ma question relève plutôt de la psychologie d'un homme qui voulait être un réformateur, qui faisait partie d'un mouvement qui était en fait un système qui n'a pas voulu changer. Alors, est-ce que l'exemple de Rocard ne montre pas les limites même d'un homme génial face à un système qui a ses propres intérêts, qui ne veut pas changer, ses propres inerties? Et que ce soit au niveau national ou au niveau local, je pense que, comme M. Rocard, beaucoup de personnes se sont retirées de la politique parce que des clans, moi je vois en Lorraine le clan Masseret-Todeschini, ont dégoûté beaucoup de gens, y compris en Meurthe-et-Moselle, comme le très très inventif Michel Dinet, qui était président du Conseil Général et qui était un innovateur en matière de coopération économique et sociale. Et ces gens ont toujours été un peu écrasés par ceux qui, à un moment arrivé au pouvoir, voulaient une forme d'homogénéité et ont empêché une véritable réforme de se faire à la fois au sein de leur parti et dans la société.
Merci Laurent pour cette question ou ce point de vue. Jacques Julliard, il faut noter que dans le débat, dans le sujet, Michel Rocard face au Parti Socialiste et face à François Mitterrand, Rocard, lui, s'est toujours montré loyal, quitte à passer son tour deux fois en 1980 et puis en 1988 où il a été candidat déclaré avant de se retirer, je crois, moins de deux mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il n'a jamais réellement voulu pousser à bout ses velléités de renverser le système et la prééminence de François Mitterrand.
Je crois que non seulement il n'a pas cherché à renverser le système, mais dans le fond, il était partisan de ce que notre interlocuteur appelle le système, c'est-à-dire le régime de la Ve République. Michel Rocard était l'homme de l'autogestion, hein, c'est un mot qu'on n'a encore pas prononcé, donc de la participation active du peuple à la politique, mais l'expérience du pouvoir lui avait également enseigné qu'à un moment donné, les politiques devaient prendre leurs responsabilités. Et il a toujours été en quelque sorte tiraillé entre l'idéal de démocratie directe, de démocratie participative, notamment dans le domaine social, comme l'a dit Thierry Pêche, et aussi la nécessité pour les hommes politiques de ne pas se cacher derrière l'opinion. Je remarque que les dernières réflexions de Rocard, et en vérité il les a poursuivies toute sa vie, c'est de savoir si le régime d'opinion, le régime de com, tel que nous le connaissons, est compatible avec la vérité de la politique, avec la vérité de la démocratie. Est-ce que, et il était très dur avec les journalistes, hein, je le note au passage sur ce point, est-ce que la politique qui cherche avant tout les effets est compatible avec ce devoir de vérité que suppose la politique. C'est ça le dilemme de Michel Rocard. Alors dire sortir du système, oui, mais quel système ? Nous sommes dans un système où effectivement l'opinion publique a pris la parole. Je m'en réjouis, comme Rocard s'en était historiquement réjoui, mais il faut savoir que l'opinion n'a encore pas un statut dans notre démocratie.
Et sur sa fidélité au système de la Ve République, je rappelle que c'est l'instauration du scrutin proportionnel en 85 qui le fait démissionner du gouvernement Fabius. Bonjour Jacques Chirec.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, ancien numéro 2 de la CFDT, ancien ministre délégué à l'aménagement du territoire et à la reconversion industrielle de 88 à 91 quand Michel Rocard était à Matignon. Quel souvenir gardez-vous des idées et du style de Michel Rocard?
Moi, je crois que le rocardisme, c'est de voir les choses et les gens tels qu'ils sont. Et non pas comme on voudrait qu'il soit. Donc c'est à coup sûr un langage de vérité. Ça n'empêche pas de voir loin et de proposer une perspective, d'en discuter, de proposer un chemin, une aventure, des étapes. Pour moi, le rocardisme, c'est voir loin et agir juste dans tous les sens du terme. c'est-à-dire se préoccuper des conséquences qu'a une politique sur les hommes et sur leur territoire. C'est ce que j'ai vécu auprès de Michel Rocard, et plus particulièrement dans les responsabilités que j'ai exercées quand il s'est agi de travailler sur les conséquences des mutations industrielles, de la sidérurgie bien sûr, je suis lorrain, de la navale, du textile, etc. Donc pour moi le rocardisme c'est ça, c'est voir loin et agir juste au quotidien.
Est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui Michel Rocard? Est-ce qu'il a des héritiers?
Des héritiers.
Est-ce qu'il a des héritiers? Oh, ben je pense, tout à l'heure, il y avait un interlocuteur lorrain qui évoquait Michel Dinet, l'ancien président du Conseil général. Michel Dinet, dans sa pratique de tous les jours, c'était un rocardien pur sucre. Ouais. Je crois d'une manière... Général, là je suis peut-être un peu partisan, ce que fait la CFDT actuellement dans la grande bataille de l'idée de la loi du travail, c'est une pratique rocardienne. Hein.
Merci Jacques Chirac d'avoir été en ligne pendant quelques minutes avec nous depuis la Lorraine. Merci infiniment à vous. Les réseaux sociaux, les réflexions, les questions, les commentaires sur Twitter, Bernadette Chamonaz.
Justement, on vient de parler avec Monsieur Chirac de la loi travail et sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Les gens rappellent que Michel Rocard a utilisé à plusieurs reprises le 49.3. Certains s'en étonnent, d'autres s'en désolent.
Dans un autre contexte,
oui.
C'est vrai, c'est le gouvernement, je crois, sous la cinquième, qui a le plus utilisé l'article 49.3, qui permet donc de court-circuiter le. Mais il avait une majorité. Il avait une majorité relative, et contrairement à la majorité actuelle,
par exemple. Est-ce que ce n'était pas en contradiction avec son rapport avec la démocratie?
Oui, non, mais c'est vrai qu'il a dû gouverner de façon assez verticale sur un certain nombre de sujets. Mais je rappelle aussi qu'au moment où il fait la CSG, tout le monde est contre, sauf la CFDT, une partie du Parti Socialiste. Ensuite, tout le monde est pour et augmente la CSG. Mais il y a quand même du débat dans la société. C'est pas parce qu'il n'y a pas de débat parlementaire qu'il n'y a pas du débat dans la société, qu'il n'y a pas de concertation, qu'il n'y a pas de confrontation des idées.
D'autres choses sur les réseaux sociaux, Bernadette?
Un rappel de son européanisme.
Oui, de ses engagements européens.
De ses engagements européens, oui. Sur Twitter, les gens rappellent beaucoup ça.
Un dernier mot, Thomas Legrand?
Non, mais je voulais savoir, pour nos invités, qui étaient les héritiers les plus légitimes. En tout cas, qui pouvait porter la flamme du rocardisme, s'il y avait une flamme dans la lignée Mendès, Rocard? Trois petits points.
Alors, je vais pas donner de nom, mais je pense que pour porter la flamme du rocardisme et se prétendre l'héritier, il faut ce rapport à la société. Il faut un rapport à la société qui ne soit pas autoritaire, qui soit un rapport d'écoute.
Sex-le-Valse.
Un rapport. Non, mais attendez, non, je veux pas jouer à ça. D'accord. Vraiment, c'est pas le propos. J'essaye de trouver le chemin de fidélité aux idées les plus fortes du rocardisme. Et donc, je crois qu'il y a ce rapport à la société, à l'exercice de l'État. L'État n'est pas omnipotent. Tout ne se joue pas dans la verticale du pouvoir. Pour moi, c'est un des points majeurs. Et puisque rappelait Jacques Julliard tout à l'heure, l'autorité morale. Dans un temps de démagogie quasi généralisée, où le storytelling, les contre-vérités tiennent lieu de méthode, le rocardisme, c'est une exigence et une dignité.
Merci Thierry Pech. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Terra Nova. Merci à Paul Biondi de France Bleu Vaucluse à Avignon d'avoir accueilli Jacques Julliard en duplex. Et merci à vous Jacques Julliard. On vous lit évidemment dans Marianne. Dans un instant, Sophia Ram.